L'émission de la SAN, la Société d'Astronomie de Nantes. Bienvenue dans le monde des étoiles avec Pulsan, l'émission radio de la Société d'Astronomie de Nantes. Découverte de l'univers, le monde étrange des étoiles. Bonsoir à toutes et tous, nous sommes en direct sur Alter Nantes. Vous écoutez Pulsan, l'émission de la Société d'Astronomie de Nantes. Si vous souhaitez plus de renseignements, je vous invite à consulter notre site internet san-fr.com ou à nous téléphoner au local de l'association au 02 40 68 91 20. On répétera tout ça.
Alors mon cher Thierry, quand même une petite information, là j'ai entendu à RFI, on annonçait une petite pause de publicité.
C'est pas nous la pub.
Nous c'est le Pulsan, c'est en direct et c'est pas une pub, c'est du vrai.
Tout à fait. En parlant de téléphone, je vous invite à noter le numéro de téléphone d'Alter Nantes, je vous le donne, le 02 40 93 26 62, je le répéterai tout à l'heure. Allez chercher des crayons et des papiers hein, pour ceux qui écoutent.
Et pourquoi faut-il qu'il...
Car vous allez pouvoir gagner justement 5 places pour la prochaine conférence de la SAN. Ce soir, nous allons parler des lanceurs, du ciel du mois, de la gravitation, vous donner les actus astro et vous présenter la prochaine conférence organisée par la Société d'Astronomie de Nantes. Elle se déroulera le mardi 5 décembre à 21h à l'auditorium du Conservatoire. Vous aurez plus de détails tout à l'heure. Je vais donc poser la question qui va vous permettre de gagner 5 places pour cette conférence. Les 5 premières personnes qui donneront la bonne réponse au 02 40 93 26 62 se verront offrir une place. Voici donc la question tant attendue. Dans quel pays se trouve le VLT, le Very Large Telescope?
Alors juste un petit mot Thierry quand même, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie de gagner une place pour une conférence. On va peut-être leur dire qui c'est qui vient.
Rapidement, vas-y.
Il s'agit de Pierre Léna. Donc, qui est membre de l'Institut.
Tu allais le dire.
Ah, bah, très
c'est
bien.
Pas grave, vas-y, continue.
Non, mais c'est un très grand astronome. C'est lui qui a coordonné le projet, justement, du VLT,
voilà.
Very Large Telescope. Je ne dis pas où c'est, hein, bien sûr.
Faut faire attention.
Et il va nous parler de tous ces nouveaux moyens, de tous ces gigantesques télescopes, enfin, de tous ces moyens modernes. Ça va être une très belle conférence.
La conférence a d'ailleurs pour titre Télescope géant, interféromètre et planètes inconnues, la nouvelle astronomie. Je répète la question, dans quel pays se trouve le VLT, le Very Large Telescope? Donnez-nous la réponse au 02 40 93 26 62, 40 93 26 62, et vous gagnerez une place pour la prochaine conférence de la SAN. Maintenant, je vais laisser la parole à Dominique Minel qui va nous parler des lanceurs. À toi Dominique.
Bien, merci Thierry. Oui, effectivement, les lanceurs. Pourquoi les lanceurs dans une émission d'astronomie? Bien, parce que l'astronomie et l'astronautique, depuis les débuts de l'astronautique, ont parti liés. On peut même dire qu'il existe des liens puissants entre les deux disciplines, puisque si on considère la façon dont sont exploités les véhicules spatiaux, on peut dire qu'ils sont soumis aux mêmes lois de la physique que n'importe quel autre corps céleste, hein, les lois de Kepler, Newton, la gravité, etc. On peut dire également que l'une a profité de l'autre. Il n'est qu'à rappeler la cartographie de la Lune à partir d'un observatoire terrestre pour définir les lieux d'atterrissage sur la Lune, les lieux des premiers atterrissages sur la Lune. Et puis...
cet observatoire, c'était le Pic du Midi.
C'était le Pic du Midi, donc effectivement, ce sont les Français qui ont cartographié la Lune pour définir où les Américains se poseraient. Également, l'astronomie a besoin de l'astronautique, puisqu'il existe aujourd'hui, on peut dire, de nombreux observatoires qui sont placés hors atmosphère, donc en orbite, ou également... On peut parler des sondes interplanétaires qui sont allées visiter pratiquement la quasi-totalité des planètes du système solaire aujourd'hui. Et quand cette épopée a-t-elle commencé? On peut dire que l'épopée de l'astronautique a aujourd'hui un siècle. Un petit peu plus d'un siècle, puisque c'est en 1898 qu'un russe, Konstantin Tsiolkovsky, démontre la possibilité de la propulsion par réaction. Et déjà à cette époque-là, il y a un siècle, il imagine d'utiliser de l'hydrogène et de l'oxygène pour provoquer une combustion et utiliser la force de poussée dégagée par cette réaction très exothermique.
Alors quand on parle de poussée, c'est vrai qu'on peut préciser qu'effectivement la réaction, ce n'est pas ce qui sort du réacteur qui pousse sur la Terre ou qui pousse sur l'air, parce que dans l'espace, par exemple, il n'y a pas d'air. Et en fait, c'est simplement le fait qu'un gaz s'échappe d'un côté, ça fait réagir le corps qui possède ce gaz qui va partir de l'autre côté.
Exactement. On peut dire effectivement que la poussée ne se fait pas vers l'extérieur, mais elle se fait plutôt vers l'intérieur. Un moteur fusée, c'est jamais qu'un tube fermé à une extrémité ouvert à l'autre. Quand on se débrouille pour augmenter la pression à l'intérieur de ce tube, les gaz vont s'échapper vers l'extérieur et en même temps vont pousser vers la partie fermée du tube qui est en fait l'avant de la fusée. Il va la faire aller vers l'avant. La première fusée à ergol liquide à être lancée, donc selon les idées de Tsiolkovsky et selon la mise en œuvre qui en a pu être faite, ça date de 1926. Et à ce moment-là, on a un grand nom de l'astronautique. Hein, il s'appelle Goddard. Goddard qui a laissé son nom.
C'est pas le docteur.
C'est pas le docteur. Non, c'est le Goddard qui a laissé son nom à un des centres de la NASA aux États-Unis. On entend souvent parler du centre Goddard à propos des lancements de navettes, par exemple. Les dates suivantes sont malheureusement un tout petit peu plus tristes. Parce qu'on va évoquer immédiatement les années de la Seconde Guerre mondiale, von Braun 1942, le tir des V2 sur Londres depuis l'Allemagne. Les V2 étaient les précurseurs des fusées qui ont été construites par la suite en URSS. Donc l'Union soviétique à l'époque, à la fin de la guerre, comme les Américains, sont empressés de récupérer les ingénieurs allemands qui avaient mis au point ces lanceurs. Pour en faire au départ des vecteurs d'armes, et notamment des bombes atomiques, bombes H. Et c'était la première utilisation qui a été envisagée de façon industrielle, on va dire, de ces lanceurs qui utilisent le principe de la fusée.
Il faut savoir qu'ils avaient quand même vachement en avance, hein, les Allemands.
Oui, on peut rappeler cette formidable épopée là, sur la presqu'île de Peenemünde. C'est tout un site qui était consacré à la recherche astronautique, avec notamment Werner von Braun, qui a été après récupéré par les Américains. C'est lui qui a piloté les projets de la NASA.
Était à l'origine des projets Apollo, entre autres.
Hein. Absolument.
Et donc ces fameux V2 sont devenus, au fil des améliorations, notamment en ce qui concerne la puissance et la poussée, sont devenus les R7, hein, les lanceurs qui ont permis aux Soviétiques de mettre en orbite le premier satellite artificiel en 1957, au grand dam des Américains d'ailleurs, qui avaient prévu aussi de le faire cette année-là, puisque c'était l'année géophysique internationale. Mais ils se sont fait prendre de vitesse par les Russes, les Américains. Lesquels russes ont satellisé cette petite sphère métallique là, appelée Spoutnik. Hein. Spoutnik en russe, je crois que ça veut dire compagnon, quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, enfin, pas tout à fait compagnon, mais c'est à peu près l'idée. Hein. C'est le compagnon de la Terre.
Voilà, c'est le compagnon de la Terre, ce fameux Spoutnik qui a fait quand même un paquet de révolutions autour de la Terre et démontré la capacité des Russes à satelliser une charge pour la première fois. Les Américains n'ont pas trop tardé à suivre, mais enfin, c'était pas eux les premiers.
Oui. Je vais simplement dire que tu as dit que les Américains avaient récupéré von Braun, mais les Russes ont récupéré en fait des prototypes de fusées. Et après, il y a quelques Européens, dont les Français, qui ont récupéré encore des bouts, mais vraiment des restes de ce qui restait. Et donc en fait, après, c'était un peu la course à celui qui allait, surtout entre les Américains et les Russes, qui allait réussir à les utiliser au mieux. Et donc, comme tu l'as dit, c'est les Russes qui ont gagné la première bataille, comme on dit.
Oui, et puis ils ont même gagné la seconde, puisque le premier vol habité était également un vol russe. On se souvient tous de Gagarine, à bord d'un Spoutnik également. C'était un Spoutnik 4, si je me souviens bien.
Et Laïka, c'était entre les deux, non ?
Laïka, c'était entre les deux. Ouais. Laïka, c'était une petite chienne. Donc les Russes ont énormément expérimenté sur l'animal. Pour tâcher de mesurer un petit peu les réactions, la physiologie des êtres vivants embarqués. Et pour ces malheureux animaux,
Laïka, la pauvre, en fait, elle n'était pas prévue de revenir. Donc elle n'est pas revenue.
Non, les animaux ne sont jamais revenus.
C'était la première martyre de l'espace.
Voilà, la première victime.
Il n'y a pas de centre Laika, non ? Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de centre.
Comme il y a un centre Godard en Amérique.
Non, on n'a pas.
Il y a un membre de la SAN qui a un chien qui s'appelle Laika, mais...
Oui, puis moi, j'ai un chat qui s'appelle Spoutnik.
Et voilà. C'est, voilà. Les astronomes, ils prennent un peu le, pour leurs animaux.
Ouais. 1959, ça nous replace quand même plus de 40 ans en arrière. C'était le premier tir vers la Lune.
Ça ne me rajeunit pas, là.
Pionier 4, 1959. Et puis, s'en sont suivis un certain nombre de sondes planétaires, lancées tant par les Américains que par les Russes. Il y a eu Vénus 1, il y a eu Mariner 2. Vénus 1, c'était les Soviétiques. Mariner 2, c'est une sonde qui est partie vers Vénus. Le premier atterrissage en douceur sur la Lune date de 1966. Il est à mettre à l'actif des Soviétiques également.
Sur la face cachée, non, c'est pas ça ?
Je crois pas, parce que à cette époque-là, on tirait vers une planète ou vers la Lune, on tirait en ligne directe, on tirait comme un boulet de canon, on s'amusait pas, on faisait pas encore à l'époque des mises en orbite d'attente avec des freinages à l'arrivée, on tirait comme un boulet de canon. Donc il fallait vraiment viser juste.
Il fallait viser, il fallait pas viser dessus, il fallait viser un petit peu en avant, enfin il fallait prévoir. Non,
ah, il fallait mesurer, il fallait calculer les orbites, effectivement.
Ouais, quand même. Fait.
Et puis, bon, les années 60, je ne réévoquerai pas, puisque Jean-Pierre Raimondo l'avait fait dans une précédente émission, l'épopée des Apollos. Ça date des années 60, ça a commencé début 60, ça a fini en 1969 par le premier atterrissage sur la Lune.
Et rappelle bien que c'est un atterrissage sur la Lune, parce qu'il y a des gens qui croient qu'on annule...
Non, l'Académie a définitivement interné le terme d'atterrissage, quelle que soit la planète.
Voilà, c'est le problème, c'est
donc
que si vous allez...
Donc on va dire qu'on atterrit sur la Lune ou
si
qu'on atterrit
sur
Mars.
Si vous allez sur Pluton, ça fait aplutonir, donc ça ne devient plus de rien du tout, quoi, donc là...
Oui, ben je crois que ça, c'est la confusion entre la Terre et le Sol, n'est-ce pas ? Et le nom de notre planète qui, effectivement, s'appelle la Terre.
Dominique, est un astronome amateur sérieux, dit bien atterrir sur la Lune.
Nous sommes sérieux, Alassane. Nous avons le respect et de la précision de la langue française. Et nous essayons de la maîtriser.
Voilà, donc après cette épopée lunienne, les projets
sélénique,
on peut dire
tout simplement.
Tout à fait. Les projets ont un petit peu changé de direction, puisque là les grandes dates vont être marquées par l'exploration du système solaire. Ça va commencer en 1972-73 par l'envoi de sondes qui se sont appelées Pionier 10 et 11 vers Jupiter et Saturne. Ça a été les premiers contacts physiques directs entre ces planètes géantes et puis ce qu'elles ont pu ramener. 1977, Voyageur 1 et Voyageur 2. Voyageur 2 qui fonctionne toujours. Pour cela, elle est équipée d'un générateur isotope, donc une espèce de petite centrale nucléaire, on va dire, qui continue toujours à fabriquer du courant électrique, et Voyageur 2 continue à nous envoyer des informations. Plus de 20 ans après, elle a dépassé l'orbite de Pluton aujourd'hui, donc elle se dirige vers les confins du système solaire, duquel elle nous envoie encore périodiquement quelques informations sur le champ magnétique du Soleil, sur les particules, sur des tas de choses qu'elle peut encore mesurer.
Il faut savoir, je crois que l'émission de Voyageur 3, c'est-à-dire la puissance en watts, est inférieure à un portable d'aujourd'hui. Je parle d'un portable, un petit téléphone.
Alors imaginez,
c'est-à-dire que si vous téléphonez avec votre portable... tiens, Daniel, c'est bien, hein. Éteins le tien d'ailleurs, c'est Vitra qui passe à la radio. Donc, si vous téléphonez avec votre portable à l'état de Pluton, eh bien, en fait, les Américains peuvent vous écouter.
1979, la première fusée Ariane et l'entrée en scène, on va dire sérieuse, des Européens dans le monde, non pas de la conquête spatiale, mais de la conquête commerciale spatiale.
Parce qu'avant, il y avait un petit peu de diamants, mais des fusées de diamants, mais c'était pas encore au point.
Donc c'était Ariane 1 qui a été la première d'une génération qui compte aujourd'hui 5 exemplaires. Je vous parlerai un petit peu d'Ariane 5. 1981, ça a été la première navette. Donc là, un nouveau concept développé par les Américains, c'est-à-dire l'utilisation de véhicules réutilisables. Et aujourd'hui, on entend ce qu'on veut bien entendre sur le système, là, ce ne serait pas tout à fait la panacée, puisque réutiliser un véhicule qui a déjà été lancé, ça coûte pratiquement aussi cher que d'en fabriquer un neuf. Bon, mais bon, c'était une expérience qui a été tentée.
Il y a une grosse difficulté, c'est récupérer, etc. C'est pas évident. Pour ceux qui veulent plus d'infos d'Ariane, hein, je vous invite à rester avec nous, parce que tout à l'heure, Fabrice Dubreuil nous donnera les dernières nouvelles d'Ariane 4 et 5, je crois. Les deux. Continue, Dominique. On est pour l'instant rendu qu'à Ariane 1.
Oui, bon, on va faire un grand saut. 1986, Mir. Mir qui va voir sa vie.
Qui va bientôt tomber en poudre, d'où l'expression Mir poudre.
Justement, vous aurez dernières infos.
Ça va peut-être même mousser un peu.
Vous aurez les dernières infos sur Mir en même temps.
On ne fait pas de pub. Hein.
Non, mais.
Deux ou trois autres sondes qui sont parties. Galileo, parti en 1989, arrivé en 1995. Donc, sa mission, ça a été cartographier Jupiter et ses environs. 1990, une grande date pour l'astronomie, cette fois-ci, c'est la mise en service du télescope spatial Hubble, avec un miroir de 2,40 m quand même, ce qui représente déjà un bel instrument d'amateur. 1997, c'est le départ de Cassini-Huygens, donc là qui est parti, qui est en route vers
Saturne, Titan,
ouais. Le monde de Saturne.
Qui arrivera en 2004.
Elle arrivera effectivement en 2004, après un voyage de 7 ans. Et Cassini-Huygens, bah c'est on va dire un tandem. Hein. Il y a une partie Cassini d'origine NASA américaine qui va se mettre en orbite autour de Saturne. Et il y a un petit atterrisseur qui s'appelle Huygens qui lui va aller se poser sur Titan, si tout va bien, et va faire quelques analyses en descendant sur Titan, puisqu'on espère, on imagine trouver sur Titan des conditions qu'on peut dire.
C'est assez basique comme on dit, c'est en fait, ils vont écouter le bruit qu'elle va faire la sonde quand elle va atterrir.
Ouais, juste pour savoir si elle fait plouch ou toc,
si elle touche du sol dur ou liquide. Donc c'est comme, il y a des gros instruments compliqués, il y a un truc tout bête qui vérifie si ça fait toc ou pouf ou quoi.
C'est important.
C'est important, c'est vrai.
Toc ou plouf, c'est un.
Oui, parce
qu'elle est prévue pour flotter quand même.
Titan, ben on suspecte peut-être un océan d'éthane ou quelque chose comme ça. On ne sait pas trop. Ça peut être liquide.
Pour résumer, hein, c'est très important, ça, parce qu'il s'agit d'hydrocarbures. Hydrocarbures donc d'origine spatiale, naturelle, qui préexistent à la vie, alors qu'aujourd'hui sur Terre sont des fossiles d'êtres vivants, mais les hydrocarbures sont à l'origine des briques de la vie. Et on dit souvent d'ailleurs que Titan, c'est un petit peu comme si on avait mis la Terre au congélateur il y a 4 milliards d'années, avant que la vie n'apparaisse.
Exactement. Donc rendez-vous en 2004 pour savoir un petit peu les résultats de cette expédition. Bien, l'expédition, ça suppose qu'on lance notre sonde, et pour la lancer, il va falloir utiliser le lanceur, donc le fameux véhicule à moteur fusée imaginé par Tsiolkovsky et mis au point par ses successeurs. Alors, comment ça fonctionne ? Bien, il suffit, c'est tout simple, il suffit que le véhicule soit animé d'une vitesse au moins égale, sinon supérieure, à la vitesse d'échappement de la traction terrestre. Alors, pour mettre un véhicule en orbite autour de la Terre, la vitesse est de l'ordre de 8 km par seconde, ce qui est déjà pas rien. Si on veut que ce véhicule échappe à l'attraction terrestre, il faut atteindre 11 km par seconde. Et il faut savoir que, en gros, quand on va envoyer dans l'espace une charge de 1 kg, il faut à peu près 1000 kg de lanceur. Si on prend l'exemple d'Ariane 4... Ariane 4, ça pèse 400 tonnes et sa satellite 4 tonnes.
C'est ce qui est énorme quand même pour un corps qu'on envoie dans l'espace.
La donnée que je viens d'annoncer, 1000 kg pour 1 kg, c'est pour le cas où on souhaite rapporter sur la Terre quelque chose. Donc c'est un calcul qui a été fait à l'époque des missions Apollo et des fameuses fusées Saturne. Je vous rappelle quelques chiffres à propos de Saturne, parce que c'est vraiment époustouflant. Et même
les fusées Saturne,
quand on y est, les fusées Saturne 5, donc qui ont servi aux missions Apollo et qui ont servi à expédier les hommes sur la Lune. Une Saturne 5, elle consomme 2000 tonnes de carburant liquide, on appelle ça des ergols, 2000 tonnes en 2 minutes, soit 13 tonnes de carburant par seconde. Ces 5 cuillères produisent une force de 160 millions de chevaux. Et pour alimenter ces 160 millions de chevaux, il faut une pompe de 140 000 chevaux, soit la puissance totale d'un porte-avions comme le Foch.
Rien que pour injecter les ergols dans les moteurs.
Pendant 2 minutes.
J'ai un injecteur de 140 000 chevaux.
Et ensuite, quand cette charge est partie, et qu'elle est bien partie, qu'elle n'a pas explosé avant... ça ne se pilote pas comme un avion avec des gouvernes. Il n'y a pas de... Une fois qu'on est hors de l'atmosphère, il n'y a aucun support, il n'y a aucun appui sur lequel on puisse prendre appui justement pour faire des changements de direction ou de vitesse. Donc il faut calculer au maximum avant le départ quelle sera l'orbite ou la trajectoire de ce véhicule spatial pour avoir le minimum de corrections à faire en trajectoire qui sont dans ce cas-là effectuées par des petits moteurs fusées d'appoint, donc qui consomment du carburant et de l'énergie. Et quand ces véhicules spatiaux sont partis, plusieurs solutions pour eux. Soit ils vont rester en orbite autour de la Terre, en orbite plus ou moins élevée, selon ce qu'on va demander à ces véhicules spatiaux. Si ce sont des satellites d'observation de la Terre, on va essayer de les mettre pas trop. Si ce sont des satellites de télécommunication, on va les mettre sur une orbite qu'on appelle l'orbite géostationnaire. Ça veut dire que, vu d'un point de la surface de la Terre, le satellite en question va sembler fixe. C'est-à-dire qu'en fait, il tourne exactement à la même vitesse angulaire que la Terre.
Et pour ça, il faut qu'il soit à 36 000 km.
Il faut qu'il soit à 36 000 km d'altitude. Mmh. Si on veut avoir une vision exhaustive de l'ensemble de la surface de la planète, et à ce moment-là, il faut mettre notre satellite ou notre véhicule en orbite polaire. Et de telle façon qu'à chaque fois qu'il fait un tour en passant par la verticale des pôles, il se décale un petit peu et de proche en proche, on va balayer toute la surface de la Terre.
Ah, ça c'est très malin, j'y ai pas pensé.
C'est les satellites météo qui sont comme ça.
Les satellites
et les
météo,
spots les aussi, non, c'est légèrement différent.
Alors, il y a, entre les deux, entre l'orbite géostationnaire qui est une orbite équatoriale et l'orbite polaire qui permet de voir toute la Terre, il y a toute une panoplie d'orbites qui vont dépendre essentiellement du lieu de lancement. Hein, plus on sera proche de l'équateur, plus on aura facilité à aller sur l'orbite géostationnaire. Il y aura un minimum de correction à faire. Et au contraire, si on lance comme les Russes, par exemple, depuis Baïkonour, qui est à 50 degrés ou quelque chose comme ça, on aura des orbites très inclinées et qui ne permettront pas, elles, d'avoir une visibilité totale de la Terre.
C'est aussi pour ça qu'on lance les fusées en Europe à partir de Kourou, en Guyane, voilà, puisque Guyane est tout proche de l'équateur.
Mais c'est aussi parce que la gravité est moins forte dans les zones équatoriales du fait de ce qu'on peut appeler la force centrifuge.
On exploite effectivement la rotation de la Terre qui confère une accélération supplémentaire à l'accélération due au moteur. Et enfin, pour terminer, quand notre véhicule spatial est en route, on va quand même avoir besoin de le manœuvrer. Donc j'expliquais qu'on peut utiliser des petits moteurs fusées d'appoint qui sont disposés latéralement sur les véhicules de façon à modifier leur trajectoire. On peut également, comme c'est le cas pour les sondes Cassini, Galileo et autres qui sont partis à l'exploration du système solaire, utiliser l'assistance gravitationnelle, c'est-à-dire qu'on va se débrouiller.
Vous êtes en direct sur Alternante en compagnie de la Société d'Astronomie Nantes. Vous venez d'écouter Triste de Antonio Carlos Jobim. Maintenant, Pierre Simoneau va nous présenter le ciel du mois. Alors Pierre, que se passe-t-il ce mois-ci au-dessus des nuages?
Alors ce mois-ci, c'était la dernière fois déjà, il y a 2 semaines, donc maintenant c'est tous les 15 jours qu'on vous donne les nouvelles du mois.
Non, il y a 2 semaines, il n'y a pas de nouvelles du mois.
Ah
oh. C'est tous les mois.
Ah, en effet, alors, pardon.
À toi Pierre, vas-y.
Eh bien, je vais y aller. Donc merci de me donner la parole. Je vais commencer par nous souhaiter un mois de décembre beaucoup plus clément et clair que le mois de novembre. Tout ce que nous avions annoncé au point de vue superbe phénomène au mois de novembre
se sont réalisés.
Et là, se sont sûrement réalisés, mais nous n'avons pas pu le constater.
À cause
du beau temps.
Ah, voilà.
Et donc ce soir, je voulais vous parler de... Je vais vous rappeler un petit peu... On a parlé du temps universel autrefois. Je vais juste vous rappeler ce que c'est que le temps universel. Je vous parlerai de la Lune, des planètes et des différents phénomènes. Donc, le temps universel, je le rappelle que c'est le temps, c'est l'horaire légal moins une heure. Ou temps universel plus une heure égale horaire légal.
C'est l'heure au méridien de Saumur.
C'est l'heure au méridien.
Ou le méridien ou qui passe au Havre, qu'on appelle encore vulgairement le méridien de Greenwich, je crois.
Oui, ben voilà. C'est ça, voilà. Alors, la ligne sur moi. Le premier quartier, c'est le 4 décembre à 3h55. La pleine lune, le 11 décembre à 9h03. Le dernier quartier, le 18 décembre à 0h41. Et la nouvelle lune, le 25-12 à 17h22.
Donc, c'est-à-dire que pour observer le ciel, pour ceux qui veulent faire du ciel profond, vaut mieux se mettre en fin de mois. Alors.
Vaut mieux se mettre en fin de mois. Dans son mouvement, juste par rapport au mouvement de la Lune, dans son mouvement autour de la Terre, la Lune va donc passer à l'apogée le 1er décembre à 0h. Elle sera éloignée de nous de 405 273 km.
T'as mesuré ?
Je ne l'ai pas mesuré.
C'est ultra précis. Hein. C'est
du précis. Et ils peuvent, parce qu'avec les sondes Apollo, dont tu as parlé un peu Dominique rapidement, ils ont posé des récepteurs laser. Et en fait, il y a des. Je crois qu'il y a l'observatoire de Haute-Provence. Et donc, ils tirent des lasers et en fait, ils calculent la vitesse que. Donc, c'est un réflecteur laser qui renvoie la lumière et ils ont juste à calculer le temps que ça a mis. Ils multiplient par ou divisent par la vitesse de la lumière et puis ils ont la distance au centimètre près.
Je ne l'ai pas donné au centimètre.
Non, c'est pour ça que. Au kilomètre. Voilà, c'est pour ça.
Alors, le 12 décembre, la Lune sera revenue au périgée, soit à 360 602 km. Et en fin de boucle, le 28 décembre. Elle repassera par l'apogée qui, cette fois, sera à 406 193 km. Donc là, on voit que le mouvement n'est pas
circulaire.
N'est pas circulaire, ni elliptique, mais que ce n'est pas toujours la même trajectoire.
Tout à fait.
Alors, les planètes. Mercure ne sera pas observable ce mois-ci, trop proche du Soleil. Mmh. Vénus est toujours un astre du soir. Il est à 14 degrés de hauteur, donc facile encore à observer vers l'ouest. La phase de la planète, un disque blanc éclairé à 70% en début de mois, est aisément visible dans une petite lunette. Évolution de la phase en cours du mois, le disque ne sera plus éclairé que de 55% en fin de mois.
D'accord.
Les derniers jours de décembre sont les plus propices à son observation grâce à une magnitude de moins 4,2. Deux phénomènes intéressants par rapport à Vénus, le 11, une conjonction avec Neptune.
Donc un rapprochement.
Et le 23, une autre avec Uranus.
Donc ça veut dire qu'Uranus et Neptune ne sont pas loin.
Voilà. Quand on sait que Neptune et Uranus ne sont pas faciles à voir, ça peut être un excellent point de repère.
Tout à fait.
C'est que Mars,
c'est une planète invisible à l'œil nu.
Oui. Mars est encore bien loin de la Terre. Elle est observable au-dessus de l'horizon à l'est à partir de 3h30. Mais ne vous attendez pas de miracle, essayez de voir la calotte glaciaire nord qui connaît une journée polaire continue. Mais comme c'est très loin, je ne sais pas s'il faudrait des instruments assez puissants pour pouvoir le voir. Jupiter est toujours proche de la Terre. La réduction du diamètre apparent au cours du mois laisse cependant de belles perspectives de dessin et toute latitude pour observer nuages, taches rouges et balais des satellites galiléens. Jupiter est visible toute la nuit. Saturne précède toujours Jupiter du coucher au lever du soleil.
Vas-y.
Saturne est en position particulièrement favorable. En effet, elle est inclinée de plus de 23 degrés et nous montre ses régions polaires sud. Un bon instrument de 100 mm et plus. Vous distinguerez des bandes de nuages et bien sûr la division de Cassini. Uranus est à 22 degrés de hauteur vers 18h en début de mois, lorsque se termine le crépuscule astronomique. Vous disposez d'une bonne heure pour l'observer confortablement. Son repérage toujours difficile sera plus aisé le 23-12 lorsqu'elle sera en conjonction avec Vénus.
Vous repérez Vénus et puis alors à droite ou à gauche. Hein.
Voilà.
D'ailleurs, quand vous repérez deux planètes en général, quand il y en a deux dans le ciel, Vénus, Jupiter, Jupiter, Saturne, enfin ce que vous voudrez, vous tracez une droite entre ces deux planètes que vous avez repérées et puis toutes les autres seront sur cette droite, à peu près. Hein. C'est ce qu'on appelle l'écliptique.
Voilà.
C'est un bon moyen
de le visualiser.
C'est une droite qui fait un peu une courbe, mais enfin.
C'est une projection, quoi. C'est un grand cercle sur le ciel, comme
c'est
on dit.
Une droite qui tourne dans les virages.
Non, elle ne tourne pas, c'est un grand cercle. Voilà.
Alors, Neptune, planète de magnitude 8, est pratiquement impossible à repérer dans le crépuscule. Elle sera en conjonction avec Vénus le 11 de ce mois.
Mais je pense que le repérage en sera difficile, d'autant que ces deux astres sont distants de plus de 2 degrés. Pluton est inobservable. Je vais terminer par les autres phénomènes.
Donc il y a pas mal de conjonctions en fait, de planètes apparemment.
Quelques conjonctions, pas beaucoup de conjonctions. Il y en a quelques-unes. Le 9-12, rapprochement de Saturne et la Lune. Le 11-12, je l'ai dit tout à l'heure, Mars, Spica de la Vierge. Le 15-12, dernière conjonction d'une série de 3 cette année entre Uranus et Iota du Capricorne. Le 20-12, rassemblement spectaculaire entre Mars, Spica et la Lune. Et ceci à l'aube. Ce mois-ci est le mois du solstice, merci. Le 21-12, enfin les jours finissent de raccourcir à partir de 13h37, temps universel. Nous nous tournons résolument vers l'espérance de jours meilleurs et d'un renouveau fait de soleil, de fleurs et d'oiseaux.
C'est bien.
L'éclipse de soleil, et si vous avez le plaisir d'aller fêter Noël à Montréal et Québec, vous verrez une éclipse partielle à 60%. En allant jusqu'en baie d'Hudson, vous verrez cette éclipse à 70%. Si vous restez avec des New-Yorkais, vous n'en verrez que 55%. Autre événement, la comète de fin de siècle. La comète C-1990 TI McNaught-Hartley passera au plus près du Soleil le 13-12. La meilleure période pour suivre, voilà, si votre télescope sera en fin de nuit, les 10 derniers jours de décembre. Le 20-12, on pourra la trouver à 12 degrés de l'horizon au début du crépuscule astronomique. Un repère, le 21-12, elle sera en conjonction éloignée avec un fin croissant de Lune. Le 31 à 5h47.
Il n'y a peut-être pas grand monde qui regarderont le ciel, mais bon.
Pas grand monde, je pense.
Beaucoup d'étoiles doubles.
Ou des étoiles doubles, oui. Elle se trouve à 21 degrés d'altitude. Enfin, dernier point, c'est le réveillon du Nouvel An sur Jupiter.
Ah, c'est quoi ça?
Le 31-12-2000, le 20e siècle, le 2e millénaire, auront vécu. Pour fêter l'événement, la sonde Cassini-Huygen, en route vers Saturne, nous enverra des images de Jupiter disponibles quasi instantanément sur Internet.
Ah, d'accord.
Ah, voilà, une bonne nouvelle. Alors, on rappelle, bien sûr, hein, tu l'as fait, mais pour les gens, que finalement, nous ne quitterons le 20e siècle qu'au 31 décembre à minuit.
Voilà.
Merci beaucoup, Pierre. On change complètement de sujet. Nous allons parler de la gravitation avec Christian Scotta. À toi, Christian.
Alors, la gravitation, son auteur, c'est Isaac Newton, qui est un Anglais, qui est né en 1642, qui est mort en 1727. Il avait 85 ans. Donc,
Il est mort, pas quand il est né, bien sûr. Oui.
Bien sûr.
T'as de ces réflexions, toi, des fois?
Donc son ouvrage principal, c'est les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Alors la philosophie naturelle à l'époque, ça désignait la physique, l'étude de la nature. La philosophie au sens moderne du terme, c'est séparé dans le courant du XVIIIe siècle.
C'est un peu comme l'astrologie et l'astronomie dans l'Antiquité avec...
D'ailleurs, le doctorat chez les Américains s'appelle toujours le PhD, c'est-à-dire le philosophical doctorate, quelque chose comme ça. C'est le doctorat en philosophie.
Exactement. Et principe mathématique, c'est pour dire qu'il va faire une description mathématique du monde. Alors, l'attraction universelle, qu'est-ce que c'est? La définition, c'est deux corps s'attirent avec une force qui croît avec le produit des masses et qui décroît avec le carré de leur distance.
Voilà, c'est une clarté limpide, ça.
Bah, ça veut dire...
Il va l'expliquer.
Voilà.
Oui, je vais bien l'écrire.
Ouais, au tableau, à la radio, ça va être pratique.
Alors je vais le faire à partir des trois lois dites de Newton que tous les physiciens connaissent. Alors la première loi, c'est le principe d'inertie. Un corps qui est au repos reste au repos. Et s'il est en mouvement rectiligne uniforme, il reste en mouvement rectiligne uniforme. On appelle ça le principe d'inertie, c'est-à-dire qu'un corps va conserver son état de mouvement, sauf s'il y a un changement externe. Alors par rapport à quoi on va repérer son déplacement? Bonne question. Alors pour Newton, il existe un espace absolu que l'on ne voit pas, que l'on ne perçoit pas, mais qui existe réellement. Seulement nous...
C'est l'éther, non? C'était pas l'éther à l'époque?
Non.
À l'époque, non, je pense pas.
Non, mais au 19e siècle, effectivement, l'éther a remplacé cet espace absolu. Mm-hmm. Par contre, pour repérer les mouvements, il faut bien quelque chose. Alors soit on prend la surface terrestre pour nos propres déplacements, soit on prend les étoiles fixes pour repérer le déplacement des planètes autour du Soleil. Alors cet espace absolu ne change jamais, de même que le temps absolu. Alors le temps absolu, ça répond aussi à des impératifs physiques, c'est-à-dire si je mesure un phénomène, la seconde qui m'a précédé a la même durée que la seconde présente et que celle qui va succéder.
Ouais, t'es obligé, ouais.
C'est un impératif physique. Mais c'est aussi un impératif métaphysique parce que pour Newton, c'est Dieu qui constitue l'espace et le temps, et l'espace et le temps prennent des attributs divins. Il y a une origine métaphysique dans ces concepts. Alors c'est ce qu'on lui a reproché, d'accorder l'existence à deux êtres infinis éternels à la place de Dieu, d'où des querelles théologiques. Mais revenons à l'inertie. Alors si un corps bouge, il va décrire une droite jusqu'à ce que quelque chose vienne changer son état de mouvement. Alors ce n'est pas Newton qui l'a découvert. Galilée a pressenti ce concept, et c'est Descartes, le philosophe français René Descartes, qui l'a formulé. Mais lui, il lui a donné une valeur plus générale, c'est-à-dire qu'un corps va conserver son état quel qu'il soit. C'est-à-dire un cube ne deviendra pas une sphère, une sphère ne deviendra pas cubique d'elle-même.
Juste un petit mot sur Galilée, puisque tu l'évoquais, à moins que tu l'aies expliqué. C'est que quand il a étudié la chute des corps, il s'est aperçu que les corps tombaient de plus en plus vite. Mais il arrive un moment où il cesse de tomber plus vite, tout simplement parce qu'il y a la résistance de l'air. Et à ce moment-là, le corps continue à tomber, pourtant, mais il va tomber à vitesse constante. Donc Galilée en a déduit, fort justement, qu'en fait, un corps qui était soumis à une résultante de force nulle, ou à aucune force, soit il était au repos, soit il continue à avoir un mouvement en ligne droite et à vitesse constante. C'est ce que Newton a traduit plus tard en principe d'inertie. Et corollaire, si maintenant on veut que le corps change ce mouvement, il faut l'œuvre d'une force. Et c'est pour ça qu'il en a déduit que finalement le mouvement de rotation des planètes était dû sans doute à une force.
À une force, exactement. Alors la force, c'est ce qui modifie l'état de mouvement d'un corps. Hein, c'est ce que Galilée avait compris sans le formuler de façon générale. Puisque là, dans ces trois lois, Newton formule des principes généraux. Donc la force, c'est ce qui détourne un corps de son mouvement rectiligne uniforme ou ce qui le met en mouvement. Et donc, Newton va appeler force centripète la force qui va détourner un corps de son mouvement rectiligne pour lui faire décrire une trajectoire autour d'un corps central comme la Lune autour de la Terre. Alors donc, c'est le cas des planètes autour du Soleil. Et donc cette force d'attraction, elle ne se réalise pas par contact, puisque entre la Lune et la Terre, il n'y a rien, il n'y a que de l'espace vide. C'est ce qui posait problème à l'époque, puisque Descartes, par exemple, pensait qu'il fallait un corps intermédiaire pour transmettre le mouvement. Hein. Si je veux changer quelque chose, si je veux bouger une pierre, faut que je la touche avec ma main ou que je la touche avec un jet d'eau, voilà, ou quelque chose.
Parce que c'est vrai que Descartes, il pensait que ce qui avait de plus mystique dans la force de Newton, c'était cette absence de contact direct. Parce que pour les Français, pour les cartésiens, il fallait qu'il y ait des leviers qui agissent les uns sur les autres. Il fallait vraiment des roues dentées, des choses qui soient en contact. D'ailleurs, même Newton, je crois, trouvait ça très étrange, mais il disait... C'est peut-être étrange, mais c'est comme ça que ça a l'air de fonctionner, en tout cas.
Effectivement, hein, ce concept d'action à distance, puisque c'est de cela qu'il s'agit, ne l'a jamais accepté vraiment. Il a essayé d'expliquer l'attraction par l'éther, il a essayé même de l'expliquer... toutes les explications, il a dit, ce sont des hypothèses, puisqu'on ne peut pas vraiment les démontrer. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de décrire les mouvements tels qu'ils sont, de pouvoir les calculer, si on veut, et donc d'apporter une description physique au système du monde, hein, le système solaire de l'époque. Puisque quand on dit système du monde, on parle essentiellement du système solaire. Les étoiles sont encore à l'époque des objets très lointains, dispersés dans l'espace, mais l'astronomie de l'époque ne s'intéresse pas vraiment à ces étoiles, puisque les lunettes de l'époque ne donnent pas grand-chose. Il faudra la spectroscopie ou la découverte des étoiles doubles pour renouveler un peu l'astronomie stellaire. Alors, les mouvements des corps se combinent, hein, c'est-à-dire que le corps va avoir par exemple un mouvement rectiligne uniforme, une force va agir sur lui pour l'en détourner, donc le corps va décrire la résultante de ces deux trajectoires. C'est ce que l'on appelle la règle du parallélogramme, un corps décrit un mouvement rectiligne, je lui donne un petit coup de façon perpendiculaire, le corps va décrire la diagonale de ce parallélogramme. Et pour la Lune autour de la Terre, c'est un peu la même chose. La Lune décrit une trajectoire rectiligne, la force agit instantanément, elle le détourne et le corps va décrire un arc de courbe qui est la résultante de ces deux trajectoires. Ceci se passant à chaque instant, bien évidemment.
Oui, à chaque instant, la Lune tombe d'à peu près 1,4 mm vers la Terre, d'ailleurs. Ce qui est la différence entre sa trajectoire rectiligne virtuelle et sa trajectoire réelle de rotation.
Oui, et donc, pour Newton, tous les corps s'attirent les uns les autres. Hein, c'est ce que j'ai dit au départ. Hein, deux corps s'attirent. Donc le Soleil attire la Terre attire le Soleil, la Terre attire la Lune, etc. Cette attraction, elle est mutuelle, elle est réciproque. C'est ce qu'il appelle la troisième loi, c'est-à-dire qu'à toute action est égale une réaction. Hein, c'est la même chose pour une pierre et la Terre. La Terre va attirer la pierre qui va tomber sur elle, mais la pierre attire la Terre qui tombe sur elle. Seulement, l'attraction subie par la Terre de la part de la petite pierre est infime par rapport à l'accélération que subit la pierre de la part de la Terre.
Donc en fait, les trois lois qui est énoncée, le premier, conservation du mouvement,
oui.
Inertie ou alors état repos. La deuxième, c'est quand tu agis, c'est une combinaison,
c'est la force.
De la force. Et donc la troisième, c'est que les deux s'attirent mutuellement. C'est ça?
Voilà, exactement.
Et c'est d'ailleurs déjà un principe de relativité, l'équivalence en fait. Il ne l'a pas formulé réellement, mais c'est bien ce qui est contenu là-dedans. L'égalité entre les deux repères en fait, les deux référentiels.
Exactement, oui, ça c'est sous-entendu, bien entendu. Oui. Alors ça fait partie des définitions, hein, l'espace absolu, le temps absolu. La relativité galiléenne, c'est pas dit comme ça, mais ça équivaut à ça. Tout ça, c'est dit précédemment. Hein. Quand on énonce ces trois lois, effectivement, de façon brute comme ça, effectivement, il y a tout ce qui est sous-entendu derrière. Bon, c'est ce qu'on vient d'expliquer, mais si on les dit comme ça, effectivement, ces trois lois perdent beaucoup de leur signification. Mmh.
Rapidement, la suite.
Alors, l'inverse du carré de la distance, c'est ce qui va expliquer les lois de Kepler. Hein. Donc, les lois de Kepler, c'est les planètes décrivent non pas des cercles autour du Soleil, mais des ellipses autour du Soleil. C'est ce qu'a dit Pierre tout à l'heure à propos de la Lune. Il y a un apogée et un périgée. Et donc, Newton a effectué le calcul sur la Lune et il a trouvé, par exemple, que si une pierre, dans la première seconde de chute, elle tombe de 4,90 m sur la Lune tomberait en direction de la Terre de 1,36 mm. La Lune étant 60 fois plus loin du centre de la Terre que nous-mêmes le sommes, ça veut dire que la force décroît avec le carré de la distance. 60 au carré, ça fait 3600. Il faut diviser 4,90 m par 3600 et on trouve 1,36 mm. Pour la chute de la Lune dans Terre, on dit que on prend la mesure du rayon terrestre, on dit je suis attiré vers le centre de la Terre.
Et on dit qu'on est à une distance de 6300 km du centre de la Terre, d'ailleurs, quand on est sur la Terre.
Voilà. Alors ensuite, le problème des trois corps, parce que là nous supposons toujours deux corps, hein. Par exemple l'attraction qui s'exerce entre la Terre et la Lune, ou entre le Soleil et la Terre. Alors quand il y a deux corps en présence, la solution est relativement simple, puisque la résultante, c'est une ellipse keplerienne. Deux minutes, d'accord.
Tu peux le dire.
On m'a fait signe d'accélérer, je parlais d'accélération, ça tombe bien. Mais je vais faire assez vite.
L'accélération de la pesanteur. Tu oublies pesanteur et tu accélères.
Donc quand il y a deux corps en présence, comme la Terre et la Lune, eh bien les deux corps tournent l'un autour de l'autre. En fait, ils tournent autour d'un centre de gravité. Ce centre de gravité se trouve à l'intérieur de la Terre pour ce qui concerne le système Terre-Lune. Et la Lune décrit une ellipse autour de la Terre. Mais quand il y a plusieurs corps, plus de trois corps par exemple, le Soleil en particulier, cette ellipse, elle est déformée. Hein, c'est ce que... On va dire ça comme ça. Parce que les trois attractions vont se combiner et vont produire des irrégularités dans le mouvement. Donc ça complique singulièrement le problème et Newton ne l'a pas trouvé de solution définitive et ce problème ne sera résolu qu'au début du XXe siècle avec Poincaré. Mais ça, ce sont les abîmes de la gravitation.
Les abîmes de la gravitation, tu vas faire peur aux auditeurs là.
Exactement. Alors un dernier mot, si j'ai le temps, sur la nature de la force. Newton ne définit jamais la force, il la décrit mathématiquement. Il dit, il suffit que la gravité existe selon les lois que je viens de démontrer. Ça me suffira. Maintenant, en quoi consiste la gravitation? Est-ce que c'est l'action d'une matière subtile? Est-ce que c'est l'émanation d'esprit ou l'émanation de matière de la part des corps? Je ne le dirai pas. Tout ça, ce sont des hypothèses que je ne pourrais pas démontrer.
Il y a bien raison, parce qu'on ne le sait toujours pas. Donc, hein.
Exactement. Le problème n'a pas de solution.
Alors, il y a juste un petit mot quand même. C'est que l'œuvre de Newton, cette théorie de la gravitation universelle, a eu un effet incroyable sur la science à l'époque, puisqu'elle a unifié la physique terrestre, avec les lois de la chute des corps, et la physique céleste. C'est-à-dire que dans le ciel, finalement, le ciel répondait aux mêmes lois que la Terre. Donc c'était un pas de plus vers cette espèce de révolution de la pensée qui a été à l'aube de la physique moderne.
Voilà, c'est ce qu'avait commencé Galilée, ce que poursuivra Newton.
D'accord. Merci beaucoup, Christian. Je vous rappelle la question qui va vous permettre de gagner des places pour la conférence. Dans quel pays se trouve le VLT ? Je vous conseille, pour vous aider un peu, de chercher dans les premières lettres de l'alphabet.
C'est pas un vélo, hein, le VLT.
Le VLT, c'est pas un vélo, hein. C'est, donc, vous cherchez un pays dans les premières lettres de l'alphabet, c'est le Very Large Telescope, c'est un télescope européen. Et donc, faut chercher où est-ce qu'il se trouve.
Chercher dans quel pays.
Dans quel pays,
il suffit de savoir de quel observatoire ça fait partie, déjà. Voilà. C'est un observatoire européen.
Qui est probablement en Europe.
Voilà.
Donc après la pause musicale, nous vous donnerons les dernières nouvelles de l'univers et on vous présentera la prochaine conférence organisée par la SAN. Vous aurez reconnu un autre monde de téléphone. En parlant de téléphone, je vais vous redonner le numéro de téléphone alternant 02 40 93 26 62. Vous nous téléphonez et vous répondez à cette question. Dans quel pays se trouve le VLT, le Very Large Telescope? Et il faut vous dire que c'est dans un pays de l'hémisphère sud.
Parce que c'est l'observatoire européen austral.
Voilà. Oula, mais là, tu facilites parce qu'il en reste. Il y a déjà eu des bonnes réponses, je crois.
Ah, bah oui, mais bon, on va essayer de faciliter pour les gens. Voilà. Les ceux qui ont plus de mérite et ceux qui seront annoncés en premier dans le résultat, c'est ceux qui ont répondu sans les aides.
On leur donnera des tickets rouges.
On va changer les couleurs. Alors, sans plus attendre, Fabrice Dubreuil va nous donner les dernières actus astro. Alors Fabrice, que s'est-il passé d'intéressant en astronomie ces derniers jours?
Eh bien, une fois n'est pas coutume, l'actualité du ciel et des étoiles nous a gratifié d'une foule d'événements parmi lesquels il est toujours très difficile de faire un choix. Commençons tout d'abord par l'approche banlieue de la Terre avec l'événement du mois, la Station Spatiale Internationale, rebaptisée depuis Station Alpha. Pourquoi? Parce que Station Bêta serait pas fait sérieux.
Non, ça fait un peu...
est habitée.
Oui, Bêta ou alors...
Voilà.
Oméga, ça aurait été...
En effet, comme annoncé depuis quelques mois, le premier équipage permanent de la station, composé de deux Russes et d'un Américain, a pris possession des lieux le 2 novembre dernier, vers 11h30 du matin, heure de Paris. L'opération s'est parfaitement déroulée, au grand soulagement des techniciens au sol. Ces derniers ont par contre eu des sueurs froides le 18 novembre, lors de l'arrimage du vaisseau de ravitaillement Progress. En effet, une panne du système de guidage automatique du vaisseau a obligé l'équipage de l'ISS à effectuer la manœuvre d'amarrage manuellement.
Ah bah c'est quand même mieux que de le mettre dans les panneaux solaires, comme c'est déjà arrivé avec Mir.
Bah tout à fait, c'est justement en se rappelant des dégâts qui ont été causés à Mir il y a 3 ans, suite à une panne du même genre, on imagine très bien que pendant 40 minutes, les techniciens au sol ont eu une sacrée frousse.
Ouais, ça les occupait un peu.
En parlant de Mir d'ailleurs, on peut affirmer avec une quasi-certitude que la mise en service de la station Alpha signe la fin de la station russe.
C'était pas encore sûr il y a quelques mois.
Qui devrait normalement être désorbité, c'est le terme qu'on utilise.
Désorbité toi-même. Désorbité. En direct à la radio, ouais.
On coupe. En février prochain.
Soyez polis.
Cependant, la date est loin d'être confirmée, car bien que conscient que le coût d'entretien de la station est devenu exorbitant, les autorités responsables de l'astronautique...
C'est très exorbitant de désorbiter.
Eh oui. Les autorités responsables de l'astronautique russe éprouvent une sorte de passement au cœur à être des transformés symboles de l'aventure spatiale en un amas de métal en fusion qui se désintègre dans l'atmosphère.
Ouais, bah, ça c'est sûr.
C'est pourquoi la Russie étudie encore les solutions qui permettraient de prolonger au maximum la durée de vie de la station. Du côté européen, vous n'allez pas me croire, c'est le beau fixe.
Ah, c'est le beau
fixe. Il fait un son superbe du côté européen.
Ouais,
ça se remarque.
Puisque ce ne sont pas moins de 3 missions Ariane qui ont été accomplies avec succès ce mois-ci. Cela a commencé par le lancement de la 100e Ariane 4.
Ah, quand même.
Centième du genre.
Centième.
centième Ariane 4 lancée.
C'est pas le centième tir Ariane, c'est la centième fusée Ariane.
Qui a été lancée donc le 30 octobre dernier et qui a mis en orbite un satellite de télécommunication. Puis, c'est une Ariane 5 qui s'est élevée au-dessus de la Guyane le 15 octobre, sans tomber, et réalisa pour l'occasion une première mondiale, puisqu'elle a envoyé une charge utile supérieure à 6 tonnes. Elle est la seule au monde à pouvoir le faire.
Ouais,
il n'y a pas de lanceur civil qui puisse envoyer plus de 6 tonnes.
Civil.
L'autre lanceur qui peut le faire, c'est le lanceur américain, c'est lequel celui-là d'ailleurs ?
Sont sûrement des fusées Delta.
Oui, des fusées Delta, enfin celui qui avait lancé la sonde Cassini justement.
Qui est militaire.
C'était effectivement une Delta 2.
Mais ce sont des fusées militaires. Donc pour le civil, il n'y a qu'Ariane 5 pour le lanceur.
Il faut savoir qu'en fait, il y a un peu un... Je vais faire une petite parenthèse. Il y a un peu la différence, c'est qu'en fait, les satellites militaires américains et les satellites américains ne peuvent être lancés que sur des lanceurs américains. Donc il y a un problème de concurrence qui n'est pas simple, c'est-à-dire que... Daniel Tefeuille, comme on dit.
À propos des masses qui sont mises en orbite, il faut faire le distinguo entre les masses mises en orbite géostationnaire. Il y a effectivement Ariane 5 est capable de satelliser environ 6 tonnes en orbite géostationnaire, mais en orbite basse, on est capable de satelliser beaucoup plus. Il n'est pas rare d'envoyer des charges de 20 tonnes, notamment les morceaux de l'ISS, de la station spatiale internationale, atteignent ces masses-là. Mais elles ne sont pas à 36 000 km, elles sont à 400 km.
Alors que c'était le cas, là, quand même, ils ont envoyé un satellite qui faisait près de 3 tonnes, il est tout seul, en orbite géostationnaire. Et ils en ont envoyé exactement 4 d'un coup avec la mission Ariane 5, qui peut, si elle le veut, en envoyer 8 satellites d'un coup. Facilement. Avec un nouveau système de remplissage des couaves de la fusée.
Vas-y, continue.
Enfin, une semaine plus tard, le 21 octobre, c'est encore une Ariane 4 qui a réussi la mise en orbite d'un satellite de télécommunication canadien. Mm-hmm. Le prochain lancement est prévu dans une semaine, le 8 décembre. Et le dernier de l'année, le 20 décembre. Ça en fera 13 pour l'année, ce qui est pas mal pour le système Ariane.
C'est bien.
C'est comme les années à 13 lunes.
Voilà. Là, c'est une année à 13 fusées.
À 13 lunaisons, oui. J'étais en train de chercher 13 lunes, tiens.
Avant de passer à un autre sujet, une annonce très très sérieuse. Le CNES recherche des volontaires pour rester au lit pendant près de 3 mois.
Oula. Attends, faut qu'on donne un numéro de téléphone du CNES.
Oh, c'est très sérieux. Pour aller sur le site internet du CNES, il y a la personne responsable. Le but est d'étudier les réactions de l'organisme pour préparer au mieux les futures missions spatiales.
Ah, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de te lever, c'est ça ?
Pendant 3 mois, tu restes au lit, tu ne bouges pas.
Ah oui, par contre, c'est moins drôle, quoi.
Alors là, je connais des candidats potentiels. J'ai quelques relations.
Bon, alors, écrivez au CNES.
Voilà. À présent, quelques nouvelles de nos compagnons de voyage autour du Soleil. Jupiter vient de se faire tirer le portrait par Cassini-Huygens. En route vers Saturne, Saturne qui d'ailleurs vient de se voir gratifié de 4 nouveaux satellites. Ça lui en fait 22.
La course.
La sonde qui doit passer au plus près de Jupiter à la fin du mois de décembre a braqué toutes ses caméras vers le géant du système solaire et en a tiré quelques vues assez spectaculaires qui sont d'ailleurs, pour ceux qui ont un accès à Internet, visibles sur le site de la NASA et je vous encourage à aller les voir parce qu'elles sont vraiment superbes. Les vidéos et les clichés de Jupiter. Elle a également braqué son spectrographe.
Grave dans la mesure où il enregistre des images ou des graphiques. Hein. Sinon, un scope, c'est quand on regarde dedans.
Et elle a fait une étude du tore de plasma qui est autour de Jupiter, qui est assez intéressante également. De son côté, Titan, qui est le but final de la mission Huygens, Dominique en a parlé tout à l'heure, se révèle un peu plus à nous. Ainsi, des observations réalisées sur la Terre ont montré que sur Titan, c'est comme chez nous. Il y a des nuages et il pleut. La seule différence, c'est que là-bas, l'atmosphère est à environ 180 degrés en dessous de zéro. Et puis c'est aussi plus dense, mais bon, c'est déjà une nouvelle importante. Il pleut sur Titan, donc ça pourrait être un indice pour trouver un support liquide et que ça fasse plouf et pas ploc quand ça va tomber. Le Soleil, quant à lui, vient de faire indirectement une sacrée frousse à l'équipe américaine en charge de la mission Stardust qui doit prélever des échantillons sur la comète Wild 2 début 2004. En effet, le 9 novembre, les responsables ont voulu contacter la sonde. Et là, la sonde était complètement inerte depuis 24 heures. Plus aucun message, plus rien. Grosse panique. La raison était une éruption solaire la veille qui avait complètement déboussolé la sonde. Les particules avaient complètement détracté les capteurs. Et la sonde, dans ces cas-là, c'était un peu comme les systèmes que je nommais les systèmes d'ordinateur américain que je ne citerai pas. Ils retournent chez maman et ça recommence au début. Donc il a fallu démarrer la sonde, il a fallu tout rallumer.
C'est les fenêtres qui buguent tout le temps.
Il a fermé ses fenêtres pour se protéger.
D'accord.
Enfin bon, plus de peur que de mal, mais surtout une grosse crainte de la part des techniciens, parce qu'ils avaient déjà perdu depuis le début de l'année Mars Climate Orbiter et Mars Polar Lander. Alors on perd une troisième, ça aurait fait tâche.
Ça aurait fait tâche, un troisième bonne année pour eux.
Pour terminer cette actu, une info qui nous vient de Mars et qui donne une fois de plus à réfléchir. Les géologues américains viennent de mettre en évidence une grande concentration d'olivine sur Mars.
De quoi ?
D'olivine.
L'olivine, c'est une pierre basaltique.
C'est une pierre basaltique.
Une roche lourde.
Il faut préciser pour les, justement, les gens qui ne connaissent pas.
D'olivine sur Mars, vous me direz, et alors ?
Olivine et pyroxène sont les deux mamelles des basaltes.
Et alors, l'olivine a un gros défaut. C'est pour ça qu'on ne trouve pas beaucoup sur Terre. L'olivine est très facilement oxydable et se détruit très facilement en présence d'eau liquide et en présence d'eau tout simplement. Donc, s'il y a beaucoup d'olivine sur Mars, ça veut dire qu'il y a très peu de chances qu'il y ait un jour de l'eau sur Mars.
Donc, ah, ça, c'est méthode indirecte pour prouver.
Très triste. Ça.
Il peut y avoir des liquides, du CO2 liquide ou des écoulements d'autres choses, mais de l'eau. Il y a très forte chance pour qu'il n'y en ait pas eu, tout simplement parce qu'il y a l'olivine, autrement il n'y en aurait pas.
D'accord.
Donc c'est une fois de plus, je dirais, un coup de pied ou un peu moins d'espoir de trouver de la vie sur Mars, parce que sans eau, trouver des ébauches de vie sur Mars, ça commence à être très très dur. Et une fois de plus, et c'est pour, je voulais en parler un peu, c'est au moment où on vient quand même de nous annoncer à tous les médias que le sommet de l'air a fait un plouf.
Voilà.
Serait bon de rappeler que notre Terre, c'est un petit miracle très précieux et très rare, et qu'il serait temps de penser qu'on n'a pas le rechange. Hein. Donc voilà, je voulais conclure là-dessus.
Ah, c'est une belle conclusion, ça, c'est vrai. Mais quand bien même il y aurait eu de la vie sur Mars il y a des milliards d'années, c'est pas pour autant que notre planète ne serait pas précieuse. Parce que de la vie comme chez nous, hein, les paysages.
On est pas prêt d'en
avoir. Il fait si bon chez nous, mon cher Thierry.
Tout à fait. Merci beaucoup, Fabrice. Maintenant, Daniel Worling va nous présenter la prochaine conférence organisée par la SAN, où Pierre Léna va nous parler de ce qu'il appelle la nouvelle astronomie. Je vous rappelle qu'on peut gagner des places. Vous nous donnez la réponse à cette question. Où se trouve le VLT, le Very Large Telescope, en téléphonant au 02 40 93 26 62. 40 93 26 62. Et vous répondez à cette question. Vous allez pouvoir gagner des places pour la conférence que nous va nous présenter Daniel.
Alors oui, comme tu l'as dit fort justement, cette conférence va s'intéresser aux méthodes modernes et tout à fait nouvelles, enfin non seulement nouvelles, mais absolument à la fois révolutionnaires et monstrueuses. On pourrait dire que c'est une astronomie un peu des monstres. Alors Pierre Léna, que je présenterai tout de suite, avait un titre qui était un peu hermétique. Il disait interférométrie, optique adaptative, enfin il citait un peu toutes ces techniques dont je vais parler dans un instant. Et en fait, nous avons suggéré un titre qui est un peu plus choc, mais en fait qui reflète bien cet état d'esprit, cette course, non pas à l'armement, mais tout à fait pacifique, mais vers le gigantisme. Donc télescope géant, interféromètre et planètes inconnues, parce qu'en fait, à l'aide de ces instruments-là, quelle est la nouvelle chose qui va nous apparaître devant nos yeux hagards ? C'est pour la première fois, on va peut-être pouvoir voir... si ce n'est détecté, mais on va peut-être même voir les fameuses planètes nouvelles autour de nouveaux soleils, des nouveaux systèmes solaires.
Pour l'instant, on ne fait que détecter les perturbations.
Alors on détecte des poussières, des perturbations, on a détecté plus de... Maintenant, on doit arriver bien à une cinquantaine de systèmes dits extrasolaires, hein, c'est-à-dire de planètes autour d'autres étoiles que le Soleil, donc assez loin, très très loin de la Terre, d'ailleurs tellement loin qu'en fait... Toutes ces petites planètes sont noyées dans la lumière de l'étoile. Alors, ce n'est pas tellement de ça qu'on va vous parler, encore que Pierre Léna va sans doute aborder ce point-là. Mais il va d'abord parler de techniques et qu'est-ce que c'est que toutes ces nouvelles techniques. Parce que Pierre Léna, je vous lis des petits extraits de son résumé, que l'aube du XXIe siècle, puisque nous serons à l'aube du XXIe siècle le 1er janvier prochain, verra la rencontre passionnante d'une part de tout ce qui est télescope géant, donc le VLT dont on a parlé, hein, le Very Large Telescope, le KEK... Il y a aussi de l'interférométrie, donc c'est le VLT notamment, pour l'instant, livre des images à partir de télescopes de 8 mètres. D'ailleurs, Dominique, tu donneras, je pense, quelques précisions sur ces instruments. Et en fait, ces télescopes sont prévus non seulement pour fonctionner chacun pour soi, je dirais, mais en plus pour que leur lumière soit combinée et pour atteindre des résolutions tout à fait révolutionnaires, puisqu'on va voir... en fait, la résolution sera telle, c'est comme si on pouvait voir une pièce de 5 francs à une distance de 600 km. C'est à peu près la résolution que l'on même beaucoup plus d'ailleurs, parce que j'ai un petit peu oublié. Et alors, en fait, il y a d'une part donc, tous ces moyens tout à fait révolutionnaires. Alors, je les cite rapidement, le gigantisme des télescopes, plus les moyens d'optique adaptative, c'est-à-dire là, le jeu, la façon de corriger les vibrations de l'atmosphère, et troisième chose, ce qu'on appelle l'interférométrie, c'est-à-dire la combinaison des lumières. Et ceci, tous ces moyens modernes, en conjonction avec la deuxième grande révolution de ces dernières années, c'est la découverte de ces fameuses planètes extrasolaires, et peut-être que l'on va la voir, bien sûr, prochainement. Alors, je présente rapidement Pierre Léna, avant que Dominique vous donne quelques idées sur ces grands télescopes, ou alors peut-être tu peux enchaîner sur ces instruments.
Oui, effectivement. Je n'oublie pas de ne pas dire où ça se trouve.
Voilà, le VLT.
Je ne dirai pas où c'est. Donc effectivement, le VLT, c'est un ensemble constitué à terme de 7 télescopes, 4 grands télescopes de la classe des 8 mètres, 8 mètres 20, plus 3 télescopes plus modestes d'environ 2 mètres, qui sont disposés, ces télescopes, sur un cercle qui fait environ 130 mètres de diamètre. Et l'idée, c'est de combiner la lumière provenant de ces 7 instruments, d'en tirer ce qu'on appelle des franges d'interférence, d'où le nom d'interférométrie, et d'appliquer un gigantesque calcul, traitement informatique à ces lumières, de façon à reconstituer, on va dire, un champ de vision équivalent à un miroir de 130 mètres de diamètre, équivalent à un télescope de 130 mètres de diamètre. Et avec les résolutions qu'on sera capable d'atteindre de cette façon-là, il sera peut-être, ça reste encore à montrer, possible de distinguer les deux visus, cette fois-ci, non plus par les effets induits, mais deux visus, de distinguer des planètes extrasolaires.
Oui, c'est tout à fait, c'est le rêve d'ailleurs de tout astronome, de voir ces nouvelles terres, quoi. C'est ça l'interférométrie.
Puis de voir des étoiles aussi. Hein.
C'est tout l'objet de l'astronomie actuelle, d'essayer d'aller vérifier ces hypothèses de présence de planètes plus ou moins géantes autour d'étoiles qui, pour l'instant, sont choisies dans notre proche banlieue, quelques années-lumière malgré tout, ce qui représente quand même déjà quelques...
C'est infiniment plus loin que le système solaire. On va le rappeler, qui fait 4 heures-lumière en tout et pour tout, enfin de rayon à peu près. Hein, la lumière met 4 heures pour venir des confins.
Alors que les planètes extrasolaires qu'on voit sont plutôt autour de 10 années-lumière, comparé aux 4 heures-lumière.
4 heures, 10 années, c'est la proportion de distance. Hein. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres, en fait, le calcul.
Et simplement, il faut rappeler que la Terre a un diamètre de l'ordre du centième du diamètre du Soleil. C'est pas lumineux intrinsèquement, la Terre. Donc imaginez les techniques qu'il faut mettre en œuvre pour déceler un tout petit grain de poussière, la Terre, par exemple, qui passe devant son étoile, qui est 100 fois plus grosse en diamètre.
Quelqu'un a donné une comparaison, c'est comme détecter la lueur d'une bougie à côté du phare de Saint-Nazaire, ou d'un phare, quoi, marin.
C'est à peu près ça, c'est peut-être même encore plus compliqué que ça. Ouais.
Alors, oui, un mot encore, puisque tu as parlé tout à l'heure des lanceurs, et donc on a parlé d'une part, bon, là, on vient de parler des télescopes, avant on a parlé des sondes qui sont parties explorer le système solaire. Voici deux moyens, tout à fait l'un classique, l'autre beaucoup plus moderne, d'exploration de l'espace. On n'en a pas cité un, mais parce que ce n'était pas l'objet de ton exposé, mais là, pour l'astronomie, on peut citer tous ces satellites qui ont été mis en orbite pour mesurer des infrarouges ou l'ultraviolet. Par exemple, toutes ces radiations très subtiles qu'on a du mal à bien mesurer depuis la Terre à cause de l'atmosphère.
Qu'on ne peut pas mesurer.
Pour certains, oui, on peut
qu'on
pas.
Ne peut pas mesurer au sol, puisque l'atmosphère terrestre est opaque à certaines radiations. Donc, si on veut faire des observations dans le domaine des rayons X, des rayons gamma ou des infrarouges longs, on est obligé de s'affranchir de l'atmosphère terrestre, donc d'aller placer des observatoires hors de l'atmosphère. La solution la plus simple actuellement, c'est effectivement de mettre ces observatoires en orbite, en attendant peut-être d'aller en placer sur la face cachée de la Lune ou sur Mars. Pourquoi pas.
À propos d'infrarouges et de satellites de détection, juste une dernière nouvelle de dernière minute, là, vraiment tombée aujourd'hui. On vient de trouver une petite voisine, une étoile, à 13 années-lumière de chez nous, vraiment très proche par rapport à ce qu'on trouve actuellement. On parle par les satellites infrarouges qui l'ont détecté en observant.
Ah oui, parce qu'on détecte à l'aide des infrarouges des objets relativement peu chauds qui émettent plutôt dans le rouge ou l'infrarouge. Donc, par exemple, ce qu'on appelle les naines rouges, qui sont des petites étoiles, ou alors des poussières, souvent. Les poussières qui sont réchauffées par des étoiles proches. Donc les poussières, c'est typiquement ce qu'on peut appeler des planètes ou de futures planètes. Alors, je vais présenter en quelques mots Pierre Léna, hein, qui est un de ces conférenciers fétiches qu'on a souhaité faire revenir pour ses 30 ans de la Société d'Astronomie, puisque Pierre Léna avait fait ici même à Nantes une conférence remarquable il y a quelques années, et où il parlait de l'origine un peu des débuts de l'univers. Et là, bien sûr, il va parler d'un sujet qu'il connaît bien, puisqu'il a été le coordonnateur de ce projet Very Large Telescope, VLT, le coordonnateur donc français pour cet énorme projet. Il est aussi astrophysicien, il est théoricien. Il a écrit des livres pour les étudiants tout à fait trapus. C'est quelqu'un qui connaît très bien l'astrophysique. Et en fait, il est aussi membre de l'Institut, donc académicien des sciences, quelqu'un d'éminent, quelqu'un qui a une carrière, une très belle carrière et qui la mérite. Il est chercheur associé donc, à l'Observatoire de Meudon, Paris-Meudon, professeur à l'Université Denis Diderot, c'est ce qu'on appelle Paris 7. Et alors le grand public le connaît depuis qu'il a participé à une série d'émissions qui s'appelait Tour du Monde, Tour du Ciel.
Des émissions télévisées.
Télévision. Oui, c'est ça, télévisé, et puis là, et donc il expliquait un petit peu tout ce qui se passe dans le ciel, et cette émission a eu un très gros succès. Donc il a aussi, à propos du VLT, il a notamment dirigé toute la partie optique adaptative, c'est-à-dire ces techniques qui permettent de faire jouer les miroirs pour compenser la turbulence atmosphérique. Enfin, il dirige une école doctorale astronomie et astrophysique en Île-de-France. Et quelque chose qui plaît beaucoup aussi au grand public, c'est en compagnie de Georges Charpak, le prix Nobel de physique, il contribua à l'opération La main à la pâte, qui consiste donc dans les écoles à faire participer les enfants à des projets pédagogiques. Alors cette conférence aura lieu, on va le rappeler. Hein,
rappelle-le, faut pas hésiter.
Mardi, le 5 décembre, mardi dans... pas demain, mais le mardi suivant.
On rappelle aux auditeurs qui peuvent encore nous téléphoner aux 040 93 26 62
pour dire
pour nous dire le pays où se trouve le VLT pour gagner une place à la conférence.
À la conférence. Hein.
Vas-y.
Alors cette conférence aura lieu cette fois-ci au grand auditorium, la salle Berlioz, c'est l'auditorium du conservatoire, ce qu'on appelle le conservatoire national de région. J'ai jamais compris pourquoi on pouvait être à la fois national et de région. Ça, c'est l'absence de nomenclature qui crée ce genre.
Je crois qu'il s'appelle l'auditorium du conservatoire.
Ça s'appelle le CNR aussi, et ça se trouve à Beaulieu. C'est à 21h. Hein. Alors, il ne faut pas hésiter à venir. Il y a 500 places, il y a de la place. Mais enfin, il faut bien ça, parce que je crois que Pierre Léna est extrêmement
connu. Déplace les foules.
Pardon ?
Il déplace les foules.
Il déplace les foules. Alors, on espère, bien sûr, avoir la foule d'élite habituelle de nos conférences. Hein. Nous avons un public charmant qui suit bien, et nos conférences, on va le rappeler, sont quand même faites pour être accessibles au plus grand nombre. C'est pas seulement pour une élite.
Une autre information pratique, il y a de la place pour se garer devant le CNR.
Oui.
En voiture, c'est une information importante quand même.
Sous le centre commercial, oui, c'est là que se déroulent les concerts, hein, de nos amis de René Martin avec son CMC, et puis bon, maintenant la folle journée... Hein. Voici une association qui a réussi presque aussi bien que la SAN, mon cher Thierry.
Donc, mardi 5 décembre, 21h, Pierre Léna, télescope...
télescope géant, interférométrie et planètes inconnues, la nouvelle astronomie.
Merci Daniel, je vous invite à aller sur notre site internet pour avoir plus de précisions. Vous tapez san-fr.com, vous aurez notamment les informations sur Pierre Léna, sur la conférence, etc. Je vais vous donner la liste des gagnants de ce soir. Apparemment, il y en a deux. Donc, il y a Claire Couturier et Nolwenn Le Gall, qui sont tous les deux Nantais. Donc, de Nantes. Hein. Donc, voilà, ils ont gagné tous les deux, chacun une place pour la conférence de mardi soir. Qu'est-ce qu'elle me fait, Caroline, à la technique, là-bas? Il y a du bruit, là. Alors, donc, pour gagner, il suffisait de nous téléphoner, de répondre à cette question. Dans quel pays se trouve le VLT, le Very Large Telescope? Il fallait simplement répondre. Dominique?
Eh bien, il se trouve au Cerro Paranal. C'est un
On ne demandait pas cette précision, quand même.
Du Chili.
Voilà. On voulait juste savoir le pays. Hein. On
était pas au Chili, voilà.
Donc là-dedans, il y a beaucoup de... C'est un sommet qu'ils ont coupé, etc. C'est assez impressionnant dans ce qu'ils ont fait.
Et puis il y avait une dame qui est venue brandir un titre de propriété, je crois, en plein
ouais,
chantier.
C'était un peu compliqué.
Il y a eu une affaire mémorable.
C'était un endroit sacré à moitié, en plus c'était un peu compliqué au niveau de la construction. Ouais. Je remercie tous les participants de cette émission, ainsi que Caroline qui a assuré la technique, Claudie qui a assuré le standard téléphonique. Nous vous retrouverons lundi 11 décembre à 21h10 sur Alternante. Je vous signale que l'Assemblée Générale de la SAN se déroulera vendredi qui vient, 1er décembre, salle du Grand Bleu 3 à 19h30.
Pour ceux qui veulent venir et qui adhèrent en même temps, parce que c'est quand même réservé là aux adhérents. Enfin, vous pouvez venir adhérer ce jour-là.
C'est l'intérêt, donc vendredi soir. Donc vous nous retrouverez lundi 11 décembre pour la prochaine émission de radio, mardi pour la conférence. C'était Pulsan. L'émission de la Société d'Astronomie de Nantes. N'oubliez pas le dicton du jour. À la Saint-Séverin, les étoiles guident votre chemin.